France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour à tous. Un nouveau record de contamination à la Covid battu hier en France. Plus de 52 000 nouveaux cas positifs recensés ces dernières 24 heures. Avec un taux de positivité des tests qui poursuit sa progression pour atteindre désormais les 17% contre 4,5% au début du mois de septembre. Par ailleurs, le nombre de malades en service de réanimation continue d'augmenter. 116 nouveaux cas, nouveaux décès répertoriés. Depuis ce week-end, 54 départements ainsi que la Polynésie française sont concernés par des mesures de couvre-feu, soit 46 millions de personnes. Le gouvernement n'exclut pas la possibilité d'un reconfinement, précisait hier Cédrico, le secrétaire d'État en charge de la transition numérique. La deuxième vague de la Covid ne touche pas que la France. En Espagne, l'état d'urgence est de nouveau décrété. L'exécutif juge la situation sanitaire extrême et impose un couvre-feu pour une durée de 6 mois dans tout le pays, à l'exception des îles Canaries. Par ailleurs, l'Italie renforce ses restrictions face à de nouveaux records de contamination. 3 régions, dont celle de la capitale, Rome, ont adopté un couvre-feu ces derniers jours. Au moins 2 autres régions seront concernées cette semaine. Les cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont fermer dès aujourd'hui pour une durée d'un mois. La France demande la fin des appels au boycott de produits français et des manifestations dans plusieurs pays musulmans. Mouvement qui cible le président Emmanuel Macron, à qui il est reproché de défendre les caricatures du prophète Mahomet et de vouloir légiférer sur le séparatisme islamiste. Ce week-end, à 2 reprises, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est fait le porte-étendard. Il a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron en raison de son attitude supposée hostile envers les musulmans. La France, en conséquence, a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara. Les Chiliens disent oui à une nouvelle constitution. Le peuple était appelé à se prononcer lors d'un référendum 1 an après le mouvement de contestation massif contre les inégalités sociales. Et c'est donc le oui qui l'a emporté hier à plus de 78% selon les résultats partiels. Une nouvelle constitution sera rédigée pour remplacer celle héritée de l'ère Pinochet, un texte qui appelle à l'unité du pays, selon le président conservateur Sébastien Piñera.
Où est passée l'émeraude de la célèbre cantatrice milanaise qui s'est invitée au château? Tintin revient sur France Culture dans les bijoux de la Castafiore. Fausse piste, rebondissement, cacophonie, qui mène le jeu?
N'est-ce pas que tu l'aimes déjà, c'est bon, capitaine Mast?
Un ballet cocasse truffé de malentendus. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française.
1 milliard de 1 000 sabords.
Les bijoux de la Castafiore. Le feuilleton sur France Culture à 20h30, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h03 sur France Culture, le temps du monde vivant avec Bruno David qui se penche ce matin sur la mandragore, une racine ensorcelante.
Dans le ciel nocturne, une sorcière ricanant file sur son balai. Image effrayante à laquelle beaucoup croyaient fermement. Un peu comme les ovnis d'aujourd'hui, après tout, les légendes ont bien le droit de se moderniser. Comment les sorcières parvenaient-elles à s'envoler? Grâce à un onguent, une mixture savamment dosée à base de mandragore, belladone et jusquiame, 3 plantes à fleurs. Une croyance voulait que les sorcières s'enduisent de cet onguent avant de s'envoler pour aller au sabbat, à cheval sur une fourche ou un balai. On pensait que l'onguent avait plus d'effet s'il était appliqué là où la peau est fine, comme sous les bras, ou directement sur des muqueuses à l'aide par exemple d'un manche à balai. Je vous laisse imaginer à quel endroit de leur anatomie c'était le plus efficace. Pour le suggérer autrement, dire que les sorcières s'envoyaient en l'air avec un balai n'est pas faux, simplement, elles n'avaient pas besoin de voler pour cela. Les substances psychotropes de la mandragore qui peuvent traverser la peau suffisaient. Les propriétés psychoactives et thérapeutiques de la mandragore l'ont ainsi associée à des croyances et rituels magiques depuis l'Antiquité. En commençant par sa collecte. Selon Théophraste, un cercle tracé autour de la plante formait un espace magique clos, permettant au collecteur de se rendre maître de la plante. Au Moyen Âge, le collecteur de mandragore pouvait entendre le cri poussé par la plante lorsqu'il l'arrachait. Il pouvait en devenir fou, voire en mourir. On recommandait de se boucher les oreilles avec de la cire, d'attacher la plante à un chien et d'attirer le chien au loin. Lorsque la plante était arrachée, la malédiction s'abattait sur le chien et épargnait l'homme. Mais que peut nous dire un botaniste d'une plante aussi fantastique? La mandragore officinale, Mandragora officinarum, est une plante herbacée des régions méditerranéennes. La partie érigée de la plante mesure une 30aine de centimètres. Une taille bien modeste par rapport à celle des racines qui peuvent atteindre 80 cm et peser plusieurs kilogrammes. Ces racines présentent des ramifications aux formes évocatrices, auxquelles on prête des jambes, un tronc et même parfois une tête ou un sexe. Cette vague ressemblance est à l'origine de nombreuses légendes, et notamment celle selon laquelle il y aurait des racines mâles et des racines femelles, ce qui ne correspond à aucune réalité. Les mandragores poussant au pied des gibets étaient très prisées, car elles avaient la réputation d'être fécondées par le sperme des pendus. La racine macérée, semblable à un petit homme, procurait alors à son propriétaire santé, fécondité, prospérité. Comme nous l'avons dit, la mandragore contient d'importantes quantités de substances alcaloïdes. Sur un site archéologique turc antique, des fouilles réalisées à l'emplacement du stade de l'époque ont dévoilé un espace réservé à la préparation de potions à base de mandragore. Un ancêtre du dopage ? Le druide Panoramix, lui aussi, mettait-il de la mandragore dans sa potion magique ?
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil Culturel et c'est parti. Toute cette semaine, France Culture consacre ses programmes à l'Amérique avec des reportages et des documentaires inédits réalisés sur place aux États-Unis, des émissions de connaissances dans toutes les disciplines et des nouveaux podcasts pour tenter de dresser le portrait de l'Amérique d'aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle du 3 novembre, élection qui se joue, comme vous le savez, entre le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Jamais le fossé n'a été aussi profond contre ces deux finalistes pour la conquête de la Maison Blanche. Deux Amériques s'affrontent donc. Et dans le Réveil Culturel, on s'interrogera plutôt sur notre rapport à nous, à la culture américaine. L'American Dream nous fait-il encore rêver ?
Le Réveil Culturel. Lundi, livre.
Et pour commencer cette semaine américaine, un roman français. Un premier roman écrit à quatre mains. Il s'agit d'Alabama 1963, édité par le Cherche Midi, un polar haletant qui nous plonge dans les méandres de l'Amérique ségrégationniste de ces années-là. Les deux auteurs, Christian Niemiec et Ludovic Manchette, sont mes invités ce matin, des invités à distance puisqu'ils sont en duplex de Bordeaux. Bonjour Ludovic Manchette, bonjour Christian Niemiec.
Bonjour.
Premier livre, premier roman, mais ce n'est pas la première fois que vous travaillez en binôme. Vous avez l'habitude d'écrire ensemble, puisque votre métier à vous deux est d'adapter et de traduire des séries et des films américains.
Tout à fait.
On vous doit entre autres la version française de la série Lucifer et la version française des films de Terrence Malick.
C'est ça, donc pas tous les films de Terrence Malick, mais les derniers, et puis bien d'autres, puisque ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble.
Alabama 1963, comme je le disais en préambule, ça plante le décor, on sait où on est, on sait à quelle époque on est. Je suppose que si vous avez choisi de parler de cette période, de cette Amérique, c'est en écho à ce qui s'est passé, ou plutôt à ce qui a ressurgi ces dernières années dans l'Amérique de Donald Trump ?
En fait, pas du tout, parce qu'on a commencé à y réfléchir en 2014, pour tout vous dire. Donc on était encore loin de ce qui se passe aujourd'hui.
Et effectivement, nous, autant Ludovic et moi savions que le problème n'était pas réglé, autant il semblait effectivement que tout ça, c'était du passé. Et en fait, quand on a commencé l'écriture, on était bien loin de George Floyd et de toutes les émeutes que sa mort ont entraînées. On n'avait pas du tout prémédité ce qui allait se passer.
Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi parler de cette Amérique-là et de cette période-là dans l'Amérique, dans l'histoire récente des États-Unis ?
Alors l'idée de départ, en fait, c'était de réunir deux personnages qui n'auraient rien à faire ensemble a priori. Et assez vite, on a pensé à un homme blanc et une femme noire dans l'Amérique ségrégationniste.
De fait, ça crée effectivement un conflit, puisque leur amitié était quasiment impossible à cette époque-là.
C'est une fiction, Alabama 1963. S'il fallait parler de ces deux personnages, Adela et Bud, puisque au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans l'enquête, Bud dans le rôle de l'enquêteur, Adela dans celle qui l'aide et qui a envie surtout que cessent ces crimes, ils vont se métamorphoser, ils vont changer. Chacun va découvrir chez lui et chez l'autre de nouveaux sentiments. Parce que vous avez très très bien décrit la psychologie des personnages. Pour parler de Bud, par exemple, c'est vraiment l'incarnation du raciste ordinaire. Mais en même temps, c'est pas un mauvais bougre.
Tout à fait.
Non, c'est ça. C'est-à-dire que il est le pur produit de son éducation et de son époque. C'est pas, il est pas forcément raciste par conviction. C'est juste que il a été habitué à vivre dans une société où les Noirs sont considérés comme quasiment des sous-hommes. Mais il s'est jamais vraiment posé la question. Il a jamais rencontré vraiment des Noirs.
Et en fait, Adela est finalement la première personne noire à laquelle il a vraiment affaire.
Adela aussi, c'est un personnage très très fort. Enfin, très fort. Au début du roman, c'est tout sauf une femme forte. Hein. On la voit plutôt résignée, courbant les chines pour faire ce travail ingrat qui est le boulot de femme de ménage tenu par une noire dans une société raciste. Mais au fur et à mesure, elle va s'émanciper et on va découvrir plutôt une femme très très forte.
Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, mais qui garde ses réflexions pour elle au début du roman. Et puis, petit à petit, elle va effectivement s'émanciper et elle va, comme ça, ben, les choses qu'elle ne formulait pas, que nous on indiquait comme ses pensées, elle va finir par les dire. Alors que Bud est quelqu'un, lui, qui dit tout ce qui lui passe par la tête, finalement.
Quand vous dites « elle va finir par les dire », ce n'est pas non plus la militante Adela. C'est ça qui rend ce personnage intéressant. Elle n'est pas du genre à aller militer, à grossir les marches pour les droits civiques, puisqu'on est en pleine période des grandes marches pour les droits civiques, ni aller assister au discours de Martin Luther King.
Non, bah c'est ce qu'on voulait montrer en fait. C'était vraiment ce qu'on appelle une héroïne du quotidien, c'est-à-dire que c'est pas Angela Davis, elle va pas à la marche parce que elle a peur d'une éventuelle répression policière, elle a peur aussi pour ses enfants, mais elle essaye dans son quotidien, au jour le jour, de combattre les préjugés
avec ses petits moyens.
Avec ses petits moyens, mais elle y parvient très bien.
Comment vous avez fait pour écrire ce livre? Est-ce que vous vous êtes rendu dans cette petite ville de l'Alabama? Est-ce que vous êtes documenté sur l'Amérique des années 60? Est-ce que vous avez choisi aussi cette année précisément parce que c'est une année riche en événements politiques qui vont presque changer après la face de l'Amérique?
Oui. Alors, cette année 1963, évidemment, on l'a choisie parce que c'est l'année où il se passe beaucoup de choses. Déjà, à Birmingham, dans la ville où se situe l'action, c'est là où il y a eu beaucoup d'émeutes. Il y a eu le gouverneur de l'époque qui luttait contre la déségrégation des écoles blanches, qu'il voulait continuer à interdire aux Noirs. Il y a eu des attentats. Et puis, effectivement, au niveau national, il y a eu le discours de Kennedy sur les droits civiques, il y a eu la marche sur Washington, il y a eu le fameux discours de Martin Luther King. Et notre idée aussi, c'était de mélanger ces personnages de fiction, c'est-à-dire la petite histoire, à la grande histoire avec un H, et un grand H. Et donc, on voulait que le quotidien d'Adela et de Bud soit aussi rythmé par ces grands événements nationaux qui allaient bouleverser l'époque.
Avec la mort de Kennedy aussi.
Et bien sûr, la mort, l'assassinat de JFK. Quel sentiment vous inspire l'Amérique aujourd'hui, Christian Niemiec et Ludovic Manchette?
Moi, c'est vrai que je suis d'une génération qui a été bercée par le rêve américain. Donc, c'est Christian Niemiec.
Voilà.
J'ai 50 ans. Ma génération, je pense, a été bercée par la littérature, les films américains, où on parlait beaucoup de ce rêve américain.
Mais cela dit, c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai grandi avec le cinéma de Spielberg, la
Ludovic
musique de Michael
Manchette.
Donc, avec le cinéma de Spielberg, la musique de Michael Jackson, c'est l'Amérique faisait rêver tous les gamins de mon âge, enfin tous les gamins.
Oui, je pense qu'il y a eu pendant plusieurs générations effectivement ce rêve d'une Amérique idéalisée par la littérature ou le cinéma, sauf que petit à petit, très honnêtement, je pense pas, enfin moi personnellement, et je sais que Ludovic c'est pareil, l'Amérique d'aujourd'hui ne nous fait plus du tout rêver. Et je ne suis pas sûr qu'elle fasse rêver les adolescents d'aujourd'hui.
Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, glory, hallelujah. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Oh, yes, Lord, you know. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, no, yes, Lord. Still, nobody knows the trouble that I've seen.
Sam Cooke en 1963, Nobody Knows the Trouble I Have Seen. On est donc dans cette Amérique-là de 1963, dans ce premier roman, Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec et édité par Le Cherche Midi, petite ville donc de l'Alabama, où des petites filles sont kidnappées, des petites filles noires sont kidnappées et retrouvées assassinées. Donc c'est une enquête qui va rapprocher les deux protagonistes, d'abord la narratrice de ce roman, Adela, une femme de ménage qui a peur pour ses trois enfants, et puis ce détective privé très spécial, hein, parce que c'est un personnage de cinéma. D'ailleurs, vous avez écrit ce roman en insistant bien sûr sur les décors, en soignant les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues. Et puis, c'est un thriller, c'est-à-dire il y a une enquête policière avec une dramaturgie correspondant au code du genre. Est-ce que vous qui travaillez pour le cinéma, pour adapter des histoires pour les traductions en version française à partir de séries ou de films américains, est-ce que votre premier objectif était d'écrire un scénario, un film ?
Pas du tout. Non. On a vraiment voulu écrire un roman. Après, il est clair que notre écriture est forcément influencée par notre travail, qui est un travail de dialoguiste. Donc,
Christian donc adapte des dialogues depuis 20 ans. Ça fait maintenant 13 ans qu'on fait ça aussi. Donc on fait ça ensemble.
En binôme, oui.
En binôme, donc forcément. Pour les traductions, on regarde les films ou les séries image par image. C'est vrai qu'on est pour être synchro. Donc on baigne là-dedans, on fait ça toute la journée. On écrit du dialogue toute la journée aussi. Donc
je pense qu'effectivement, il y a peut-être cette déformation professionnelle, mais qui n'a pas été, ça n'a pas été une écriture volontairement cinématographique.
Quand vous vous êtes lancé dans l'écriture de cette histoire, vous connaissiez à peu près la fin. Vous aviez les deux personnages, ou est-ce que ça a été aussi une aventure littéraire, un jeu de ping-pong entre vous deux? Je ne sais pas si vous travaillez à distance ou vraiment à quatre mains.
Non, on travaille vraiment à quatre mains, c'est-à-dire qu'on a déjà, on n'est pas parti à l'aventure, on avait un plan très précis et détaillé avant de se lancer dans l'écriture proprement dite, et on a travaillé le plan ensemble, et on a écrit vraiment ensemble, c'est-à-dire que effectivement il y a un petit jeu de ping-pong, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est devant l'ordinateur, c'est Ludovic qui se met au clavier et on sait où on va aller puisqu'on a le détail à peu près, enfin on a les grandes lignes de chaque chapitre. Un des deux lance une phrase et l'autre rebondit et en fait on l'écrit et on la valide quand on est tous les deux d'accord sur la phrase exacte.
Vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que vous êtes allé aux États-Unis ? Est-ce que vous...
Ah oui, il y avait trois questions à la fois.
C'est vrai. Alors, moi j'ai vécu à une certaine époque aux États-Unis, pas en 1963, et j'y suis allé assez régulièrement. C'était dans les années 80.
Mm-hmm. Et... Attiré par le rêve américain, par votre rêve américain.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, en fait, j'ai pu y retourner assez régulièrement. Et au fur et à mesure que je vieillissais, mon regard sur cette Amérique idéale s'est quelque peu modifié. Et forcément, à la première fois que j'y suis allé, j'avais 16 ans, tout était magnifique et je voyais pas ce qui clochait, quoi. Et puis bah voilà, petit à petit, j'ai grandi et j'ai appris à voir les choses un petit peu différemment. Mais pour l'écriture proprement dite de ce roman, on n'est pas allé en Alabama, puisque de toute façon, l'Alabama qui nous intéressait était celui de 1963.
Donc vous avez vu des films, les discours de Martin Luther King, beaucoup d'actualité, beaucoup de documentation.
Beaucoup de documentation, on a regardé des films, on a lu des livres, on a regardé des documentaires, on a regardé les actualités de l'époque. On s'est quand même promené dans Birmingham aujourd'hui grâce à Internet. Donc ça nous a permis d'ailleurs de choisir les différents lieux qu'on décrit dans le livre existent aujourd'hui effectivement
existaient à l'époque évidemment
à l'époque
que... Et pour la psychologie des personnages, parce que on l'a dit, ça va être une rencontre improbable, même une amitié entre Adela, oui, donc cette femme de ménage noire qui va aider un détective privé blanc. Et en l'aidant, c'est-à-dire en essayant de lui ouvrir les portes des maisons des citoyens américains noirs, elle-même, elle se met en danger parce que elle-même, elle est mal vue par sa communauté. Donc, c'est un jeu très très subtil en disant que l'émancipation passe aussi par des prises de risques.
Oui, tout à fait. Et ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que justement, Adela est aussi confrontée aux préjugés qu'elle a elle-même d'ailleurs envers les blancs en général, et sa communauté effectivement voit d'un assez mauvais œil ce rapprochement avec le détective.
C'est vrai qu'on a essayé de faire un roman qui n'était pas manichéen, c'est-à-dire que les préjugés sont des deux côtés, quoi. Voilà.
Puisque Christian Niemiec est allé aux États-Unis, qu'il avait ce rêve américain, vous dites que c'est parce que vous étiez jeune, mais il n'y avait pas que la jeunesse. Est-ce qu'il y a eu un moment de rupture et de bascule vis-à-vis de ce rêve américain, de cette envie de culture américaine, Ludovic Manchette et de Christian Niemiec, pour terminer
Alors,
cet entretien?
Il y a encore 10 ans, on avait envisagé d'aller vivre aux États-Unis, et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, et aujourd'hui, on ne l'envisage pas du tout. Alors peut-être plus tard, hein. Cela dit, on n'est pas non plus dégoûté des États-Unis, hein. Mais c'est vrai que ça ne nous fait plus autant rêver.
Oui, il y a une espèce... Moi, je crois que j'ai réalisé... Je suis allé il y a quelques années à Los Angeles et très bizarrement, j'ai eu l'impression d'être dans une poudrière. Je ne peux pas vous expliquer ce sentiment, mais je sentais une tension dans les rues et je me disais, mais comment ça se fait que ça n'explose pas plus que ça, quoi. Donc je me suis senti très mal à l'aise. Alors pas simplement par rapport aux différences entre les communautés, mais aussi par rapport entre les différences qu'il peut y avoir entre les plus riches et les plus pauvres. J'ai trouvé ça vraiment choquant de voir que d'une rue à l'autre, on passait dans un quartier assez bourgeois et que à côté il y avait des clochards qui mouraient de faim dans l'indifférence générale. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, c'est pas du tout le pays de mes rêves.
Ludovic Manchette.
Oui, bah effectivement, le rêve américain, c'est... Bah, en fait, aux États-Unis, tout est plus grand. Les voitures sont plus grandes, les buildings sont plus grands, les rêves peut-être sont plus grands, le rêve américain. Mais les... Disons que les
désillusions sont plus
les
grandes.
Les désillusions, c'est exactement le mot que je cherchais, sont aussi plus grandes, ouais.
Ouais, vous allez suivre ces élections américaines?
Bien sûr,
d'une manière très proche ou avec détachement ou... Pour vous, c'est important, par exemple?
C'est important parce que, enfin, je pense que c'est quand même important pour tout le monde. Ce monsieur Trump me ferait presque rire si c'était pas le président d'une des plus grandes nations du monde. C'est quelqu'un qui, enfin, au départ, que moi, personnellement, j'avais du mal à prendre au sérieux, sauf qu'il a été élu. Et que maintenant, je me demande s'il va pas être réélu. Donc, ça fait quand même un petit peu peur de voir ce gars-là à la tête d'un pays aussi grand et aussi puissant que les États-Unis.
Alabama 1963 de Christian Niemiec et de Ludovic Manchette en librairie. C'est édité par le Cherche Midi. Merci beaucoup d'avoir répondu depuis Bordeaux à mes questions.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Marie-Claire Oumabadi. Et je vous rappelle que toute cette semaine sur France Culture, une programmation spéciale, l'élection américaine, un enjeu mondial, avec par exemple tous les jours dans le cours de l'histoire de Xavier Mauduit à 9h05, les grandes dates de la démocratie américaine. Adèle Van Rett, elle nous propose dans les chemins de la philosophie Trump dans l'œil des philosophes. Je vous recommande particulièrement la série documentaire L'Amérique blanche en question. C'est une série réalisée par Nicolas Champeau qui s'est rendu donc dans cette Amérique-là, l'Amérique de Trump. Et puis ce soir à 21h, la faille américaine ébranlera-t-elle le monde? Pap Ndiaye, l'historien spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, répondra aux questions de Frédéric Worms dans À présent. On se retrouve demain à la même heure.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes?
Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla.
Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses de grandes enquêtes contemporaines, racontées par ceux qui les ont révélées. Pour ouvrir la série, un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré, enquête, déni, trahison, démission. L'affaire Cahuzac, racontée par le journaliste Fabrice Arfi, mécanique du journalisme, en podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'est une histoire qui s'écrit avec des pères pèlerins à bord du Mayflower, avec des pères fondateurs qui rédigent la Constitution.
Sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
C'est une histoire qui se perd dans la guerre de sécession, mais qui se retrouve dans un horizon lointain, le Far West.
Les mythes fondateurs des États-Unis, le cours de l'histoire, de lundi à jeudi à 9h05 sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Adrien Toffolet. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Alors que la deuxième vague de la Covid s'abat sur l'Europe, les cas de contamination flambent. 52 000 en France ces dernières 24 heures, un record. Hausse importante également en Italie et en Espagne qui, comme la France, renforcent les restrictions. Madrid a décidé de réinstaurer l'urgence sanitaire hier, ainsi qu'un couvre-feu pour une durée de 6 mois. Reportage de Marie-Hélène Ballestero. En France, 46 millions de personnes vivent depuis ce week-end sous couvre-feu. L'exécutif prépare les esprits des Français à la possibilité d'un reconfinement. Il est inévitable, même pour certains infectiologues, tant le virus circule rapidement, vous l'entendrez. Focus également sur les travailleurs et travailleuses du sexe, pour qui le couvre-feu rime à nouveau avec augmentation des risques et de la précarité. Et puis direction la Chine, à la fin de ce journal, avec la réunion du comité central du Parti communiste à partir d'aujourd'hui, qui doit déterminer le nouveau plan quinquennal pour rendre le pays encore moins dépendant des autres. Ce n'est pas une vague, c'est un raz-de-marée de coronavirus qui s'abat sur l'Europe pour la seconde fois cette année. Parmi les plus touchés, la France et l'Italie, mais aussi l'Espagne. Après 7 mois de respiration, après la première vague, le gouvernement espagnol décrète un nouvel état d'urgence sanitaire. Annoncé hier par le Premier ministre Pedro Sanchez, il doit durer 6 mois, assorti d'un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries. Plus personne dehors entre 23h et 6h du matin, Marie-Hélène Ballestero.
Pour faire face à la deuxième vague du Covid-19, Pedro Sanchez a demandé aux Espagnols hier de limiter les déplacements et les contacts qui ne sont pas indispensables. Il s'est adressé tout particulièrement et à plusieurs reprises aux jeunes, conscient que c'est difficile pour eux de restreindre leur mobilité et leur vie sociale. Mais comment réagissent ces jeunes à l'annonce du nouvel état d'urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne ? Jeune étudiante universitaire, Alba reste très sceptique.
Réellement, je ne pense pas que la situation change, car les jeunes vont continuer à chercher d'autres façons de s'amuser. Par conséquent, au-delà du fait que je trouve excessif de décréter un état d'urgence pendant 6 mois, je pense que le couvre-feu ne va pas du tout être efficace.
À 19 ans, Barbara est partagée. Elle reconnaît que des mesures sont nécessaires pour combattre le Covid-19, mais elle remet en cause le couvre-feu.
C'est clair que les gens ne vont pas rentrer chez eux à 23h. On devrait être plus conscient et ne pas le faire, oui, mais est-ce qu'on obéit ? Non. Je pense même que ces mesures vont nous inciter à nous rassembler dans des lieux fermés et à être plus nombreux que si on était à l'air libre ou dans un bar.
La mise en place du nouvel état d'urgence et notamment du couvre-feu nocturne s'annonce compliquée en Espagne. C'est pourquoi hier encore, Pedro Sanchez a appelé les Espagnols à l'unité, la responsabilité et la discipline sociale. Il les a invités également à rester au maximum à la maison pour éviter les cas de contagion. Un message que les jeunes Espagnols ont du mal à entendre pour l'instant.
Marie-Hélène Ballestero. En Italie, 2 nouvelles régions, le Piémont et la Sicile, seront soumises à un couvre-feu. Elles s'ajoutent aux 3 autres, Lazio, Lombardie et Campanie, qui ont déjà adopté cette mesure la semaine dernière. Cinéma, théâtre, salle de gym et piscine vont fermer aujourd'hui jusqu'au 24 novembre. En France, le cap du million de cas dépassé vendredi, 45 000 nouvelles contaminations samedi et hier. Ce nouveau record, 52 000 personnes testées positives à la Covid. Depuis samedi soir, le couvre-feu est élargi pour près de 46 millions de Français au total. Interdiction de sortir entre 21h et 6h du matin. Et le spectre d'un reconfinement fait de nouveau son apparition. Le gouvernement l'évoque. Il ne faut absolument rien écarter, disait hier à ce sujet Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Mais tous précisent bien vouloir tout faire pour l'éviter. Il semble en revanche inéluctable pour certains médecins, Adrien Palluet.
Limiter les contacts entre individus, c'est le seul moyen pour enrayer une épidémie, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le couvre-feu mis en place ces derniers jours semble alors tout à fait justifié, mais selon le médecin, le manque de pédagogie autour de cette notion de couvre-feu pourrait être préjudiciable.
Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les Français commencent à vivre à l'anglaise et ont décalé un certain nombre d'activités du soir, le repas notamment, l'avance à 18h. Et qu'en fait, en faisant ça, finalement, on déplace le problème. Ça me fait penser que on risque d'avoir quasiment aucun effet bénéfique sur les contaminations et donc le nombre de cas qui arrivent à l'hôpital dans les prochains jours.
Parce qu'il existe aujourd'hui une différence majeure avec le plus fort de l'épidémie au printemps dernier. Le virus circule activement sur l'ensemble du territoire. Pour Benjamin Davido, il faut donc pousser plus loin la logique du couvre-feu.
La première étape, c'est que je pense qu'il faudrait mettre le couvre-feu dans l'ensemble du territoire, parce que la réalité, on le voit bien, c'est qu'il n'y a aucune ville qui est épargnée, et que tant bien même on voudrait soulager les villes qui aident, comme Bordeaux, permettrait de stopper la transmission du virus dans ces villes et donc avoir une certaine marge de manœuvre.
Et de la distanciation entre les individus.
Il faudrait, si on veut éviter le confinement, qu'on favorise massivement, lorsque c'est possible, le télétravail.
Ces mesures de confinement, partielles ou totales, subissent des critiques venant d'une partie de la communauté scientifique qui demande plutôt de se concentrer sur les tests.
Il est un métier qui ne peut s'exercer en télétravail, celui de travailleurs et travailleuses du sexe. Depuis l'instauration du couvre-feu il y a 8 jours, en Ile-de-France et dans 7 autres grandes métropoles, c'est devenu très difficile de travailler. Beaucoup le respectent et se retrouvent sans ressources. Les autres prennent le risque de récolter une amende et sont encore plus vulnérables face aux clients. Reportage de Thomas Giraudeau.
Ne pas respecter le couvre-feu pour survivre. À Lyon, Nadja Deloro travaille depuis 35 ans dans la rue. Elle n'a aucune autre source de revenus et aucune allocation en cas de perte d'activité, comme la plupart des travailleuses du sexe.
Chacune dans la rue a sa place. On ne peut pas comme ça débarquer le jour au même endroit où il y a des gens qui travaillent. Il y a certains endroits où ça tourne quand même au niveau clientèle après 21h.
Elle se déplace souvent pour éviter les policiers et l'amende pour violation du couvre-feu. Depuis sa mise en œuvre aussi, des strip clubs, des théâtres érotiques ont fermé ou avancé leurs horaires d'ouverture, comme celui où travaille Amar. Elle est aussi escorte pour tenter de s'en sortir financièrement.
Vous avez moins de clients qui viennent assister au spectacle et en tant qu'escorte. Pour tous les clients qu'on peut avoir le soir, par exemple, c'est fini. Donc la conséquence, c'est l'absence en fait de revenus. Donc si ça dure trop longtemps, je pourrais, comme ça a été le cas pendant le confinement, plus payer mon loyer. Pour ma part, et je pense l'ensemble des travailleurs du sexe, on est à bout de souffle en fait.
Le couvre-feu, c'est comme un nouveau confinement pour tout le secteur, nous dit Anaïs Delenclos, la porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe.
Avec le Covid et la pandémie, il y a encore moins de clients. On se retrouve avec des personnes qui acceptent des pratiques pour des sommes dérisoires, qui acceptent des pratiques dangereuses, parce qu'elles n'ont plus le choix. Quand vous n'avez personne dans la journée et que la seule personne qui vient vous propose 10 euros ou juste un sandwich, ben vous l'acceptez parce qu'il faut que vous mangiez. C'est juste intolérable.
Le syndicat reçoit depuis le confinement de plus en plus d'appels de femmes violentées par leurs clients, dégoûtées par ce qu'elles ont dû faire.
Le boycott des produits français et les manifestations contre Emmanuel Macron dans plusieurs pays musulmans doivent cesser. C'est la réaction du Quai d'Orsay hier qui dénonce un mouvement alimenté par une minorité radicale qui vise le président français pour ses positions sur l'islam. Dans le même temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est attaqué à plusieurs reprises ce week-end à Emmanuel Macron, à qui il est reproché de défendre les caricatures du prophète Mahomet et de vouloir légiférer sur le séparatisme islamiste. La France, en conséquence, a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara. Nous y reviendrons en détail dans le prochain journal à 7h. En Biélorussie, sans surprise, le président Alexandre Loukachenko n'a pas répondu à l'ultimatum de l'opposition. Svetlana Tikhanovskaya, au nom du peuple, exigeait la démission avant-hier soir maximum de l'autocrate, vainqueur contesté de la présidentielle au mois d'août. Pour elle, le régime montre une nouvelle fois qu'il ne connaît que la force. Elle appelle à une grève nationale dès aujourd'hui en représailles. En Chine, doit se dérouler à partir d'aujourd'hui l'un des moments majeurs de la politique du pays. Plus de 300 membres du comité central du Parti communiste se réunissent sous la direction de Xi Jinping à Pékin, avec pour travail d'établir le 14e plan quinquennal, la nouvelle feuille de route de la Chine pour les 5 ans à venir. Le contexte mondial est particulier avec la pandémie et l'affrontement idéologique entre le pays et l'Occident. Le parti compte donc miser sur l'innovation technologique pour rendre la Chine autonome et autosuffisante, le numérique, la 5G, notamment en soutenant la Silicon Valley chinoise à Shenzhen, comme l'explique Shi Nerong, professeur à l'Université du Peuple à Pékin et conseiller du gouvernement.
Le gouvernement chinois estime que l'économie planifiée et centralisée n'est pas adaptée au développement des hautes technologies sur le plan national. C'est une décision importante que Shenzhen soit à nouveau choisi comme zone pilote pour développer les nouvelles technologies. C'est urgent et stratégique. Dans le passé, l'économie de marché a été testée à Shenzhen avec succès. Ça a permis un développement rapide de la Chine. Le gouvernement central va donner à Shenzhen davantage de liberté pour réaliser cet objectif d'innovation. L'économie planifiée reste essentielle pour la marche du pays. Shenzhen complète notre modèle économique pour pouvoir avancer dans les hautes technologies.
Chez Inerong, au micro de Dominique André. Aux États-Unis, on est maintenant à 8 jours de la présidentielle, dernière ligne droite pour la campagne, alors que le vote par correspondance vient de battre le record de 2016. Près de 60 millions d'électeurs ont déjà déposé leur bulletin. L'épidémie de coronavirus reste le sujet de préoccupation dans cette dernière ligne droite. Le camp de Donald Trump assure que le pays sera très rapidement sauvé par un vaccin. En revanche, pour le camp de Joe Biden, la mauvaise gestion de la crise ne leur donne pas droit à un second mandat. Voilà pour les dernières déclaration. Le temps aujourd'hui sera humide sur une majeure partie du pays, nous dit Météo France. Des nuages, de la pluie et des orages, excepté sur la frontière nord. Quelques éclaircies dans le sud, près de la Méditerranée cet après-midi. Côté température, les minimales varieront de 7 à 15 degrés, les maximales entre 7 et 22 degrés. Il est 6h40 sur France Culture, le temps des idées. Jacques Munier, bonjour.
Oui, bonjour Adrien Toffolet.
Alors aujourd'hui, vous évoquez trois sentiments qui favorisent le vivre ensemble, l'estime de soi, la gratitude et l'amitié.
Oui, l'estime de soi est un sentiment éminemment social qui se construit sous le regard des autres. Emmanuel Kant considérait qu'elle se développe dans le champ de la morale, car le sentiment de sa propre valeur ne se fait pas à l'égard de la valeur des autres, mais en référence à la loi morale. Pour lui, l'estime de soi implique le devoir de respecter la dignité humaine en soi-même et chez les autres. Le mensuel Sciences humaines consacre un dossier à cette composante essentielle de la personnalité, du sentiment d'efficacité personnelle et de la satisfaction qu'elle procure, jusqu'à son dévoiement dans l'orgueil ou à ses troubles, quand la confiance vient à manquer en société ou au travail. Romina Rinaldi revient sur l'histoire de la notion. Le terme apparaît en tant que tel chez William James comme le résultat d'une forme d'équilibre entre les ambitions et les moyens de chacun. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les recherches sur l'estime de soi se multiplient de façon exponentielle. Les chercheurs montrent le rôle protecteur de l'estime de soi, en particulier chez l'enfant. Winnicott met en évidence le rôle de l'attachement dans ce processus. Avant de se voir, je cite, l'enfant se voit dans les yeux de sa mère, le regardant. Dans cette interaction primordiale, l'enfant développe non seulement une image de l'autre comme étant digne de confiance, mais aussi une image de lui-même valorisante. Il se sent reconnu dans ses besoins et digne d'amour. L'attachement suscite la reconnaissance et la gratitude, laquelle relève pourtant d'une forme d'asymétrie, comme le souligne Catherine Chalier dans son dernier livre paru chez Bayard sous le titre « Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie ». C'est que l'asymétrie ouvre un espace entre soi et autrui, entre soi et la nature, entre soi et Dieu, écrit-elle. Un espace où peuvent jouer la concurrence et la rivalité, mais aussi la faveur d'une grâce. Loin de la résignation, celle-ci ouvre à la portée prophétique du merci. La philosophe, spécialiste de Lévinas, très présent dans l'ouvrage, évoque le oui de l'enfant dans Zarathoustra, qui serait un nouveau commencement et un jeu, un oui sacré qui ignore l'inquiétude de l'obéissance tout autant que la colère du refus, même s'il faut savoir aussi dire non, aussi bien pour se construire soi-même que pour bâtir une société juste. Et notamment une société où puisse prévaloir ce qui est commun à tous les humains, par-delà leurs différences, c'est ce qui se produit dans l'amitié et que reflète l'expression alter ego, un autre soi-même. Les éditions Rivage rééditent le texte célèbre d'Aristote sur l'amitié dans une nouvelle traduction de Nicolas Vaquet. Pour le philosophe grec, elle est une vertu démocratique car elle assure l'union entre les citoyens et la cohésion de la cité. Fondée sur l'idée de partage, la philia répond l'amitié, la philia répond aussi à une justice légale ou morale, souligne Nicolas Vaquet. Elle est une vertu car l'amitié véritable doit aussi se comprendre comme un accord moral avec soi-même, par lequel les Grecs définissaient précisément la vertu. Elle découle de l'amour mérité que l'homme vertueux éprouve envers lui-même, soit encore ce qu'on désigne aujourd'hui comme l'estime de soi. Dans son commentaire très serré du texte d'Aristote, publié chez le même éditeur, sous le titre « L'amitié », Giorgio Agamben insiste sur l'aspect ontologique et politique de ce sentiment. Il évoque un passage central où Aristote parle d'une sensation de l'être pur, une aesthésis de l'existence, une sensation d'exister qui est par elle-même douce. L'amitié redouble en quelque sorte cette douceur du sentiment d'exister par le partage. Elle a la forme, écrit-il, d'un consentir l'existence de l'ami. Pas d'intersubjectivité au sens moderne, dans ce sentir avec, ce consentement heureux. S'ajoute alors une dimension politique dans l'esprit d'Aristote. Vivre ensemble, pour les humains, ce n'est pas seulement appartenir au même troupeau, partageant le même pâturage. La communauté humaine se définit comme une participation au fait même de vivre ensemble. Il ne s'agit pas de la participation à une substance commune, mais d'un partage purement existentiel et sans objet, l'amitié comme consentement au pur fait d'exister. Les amis ne partagent pas quelque chose, une naissance, une loi, un lieu, un goût. Ils sont toujours déjà partagés par l'expérience de l'amitié, écrit Agamben. Avec ce commentaire, c'est cette partition sans objet, ce consentement original qui constitue la politique, comme le simple fait néanmoins décisif de vivre ensemble, une synesthésie politique originaire devenue avec le temps le consensus dans la phase exténuée de nos démocraties. Et France Culture, il est encore 6h45. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Jacques Mignet, bonjour à toutes et à tous.
Au programme des enjeux internationaux aujourd'hui, à 6 jours du référendum constitutionnel en Algérie, que reste-t-il des espoirs de changement dans ce pays?
Oui, il y a plus de 20 mois du début du mouvement de contestation du Hirak, débuté en février 2019. Ce mouvement historique qui a réussi à chasser du pouvoir l'inamovible Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 1999. Un mouvement populaire, politique, de masse, dans lequel ont cohabité des militants de toute sensibilité dans des manifestations monstres qui ont défié le pouvoir dans les rues chaque mardi et chaque vendredi, jusqu'à la pandémie de coronavirus qui a stoppé net le mouvement, au moins dans sa partie la plus visible, en mars dernier. Le mouvement a aussi et surtout été confronté à une véritable mise au pas sécuritaire avec des arrestations et des condamnations parfois lourdes de ses militants. Le pouvoir algérien entend reprendre le contrôle des événements et du calendrier politique. Une nouvelle constitution donc a été rédigée par un comité nommé par le pouvoir. Le peuple algérien est appelé à l'adopter dimanche prochain. Les appels à plus de justice, moins de corruption, plus d'état de droit entendus dans les manifestations ont-ils été entendus? Où en est le mouvement du Hirak aujourd'hui? Nous en parlons avec Amel Boubaker, sociologue et chercheuse associée au Conseil européen des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, pour comprendre les enjeux du vote de dimanche prochain, j'aimerais tout d'abord vous faire réagir à une déclaration du président Tebboune. C'était en septembre dernier. Selon lui, le projet de révision de la constitution algérienne répond aux revendications du mouvement du Hirak. Dans le communiqué officiel de la présidence, donc on insiste sur la lutte contre la corruption, la justice sociale, le pluralisme médiatique, la séparation des pouvoirs, bref, des revendications qui étaient celles des manifestants. Et d'ailleurs, le Hirak serait mentionné et reconnu dans le préambule de la nouvelle constitution. Mais le compte y est-il vraiment, Amel Boubaker?
Alors, en réalité, ce type de réappropriation de la légitimité populaire, c'est ce qui fonde même l'État-nation algérien après son indépendance. Rappelez-vous, la révolution était censée être populaire, la République algérienne populaire et démocratique. Ce qui s'est passé pendant les 50 années qui ont suivi ont démontré qu'en réalité, la partie active du peuple à la décision et au formatage des lois, des valeurs du pays a été extrêmement faible. Concernant l'aspect spécifique de cette constitution, il faut revenir à ce qui s'est passé le 12 décembre lorsque Abdelmadjid Tebboune a été élu président. C'est une élection qui a été passée en force au moment même où des millions de gens étaient dans la rue pour la refuser. Et par conséquent, le régime algérien s'est trouvé dans une position où d'abord il y avait une impossibilité pour lui de proposer une solution politique réelle, une solution politique au sens de négociation, d'ouverture du processus de vote de manière transparente, et par conséquent il fallait trouver quelque chose qui viendrait combler ce vide par une légitimation notamment par cette constitution. Donc c'est un projet que Abdelmadjid Tebboune avait évoqué, cette révision de la constitution, avant même d'être élu. Et donc en fait, cette
alors, rappelez juste un chiffre, Amel Boubekeur, c'est la participation à cette élection présidentielle que vous évoquez, 60% d'abstention, donc effectivement un trouble et une perte de légitimité démocratique pour ce pouvoir à ce moment-là.
Et qui plus est, il s'agit des sources officielles. Donc, vous pouvez imaginer l'état des chiffres réels, puisque ces sources officielles font état déjà d'une abstention extrêmement importante. Et donc, ce qui va se passer pour le régime algérien, c'est la possibilité, ou en tout cas le besoin de trouver un processus de légitimation alternatif à un processus démocratique inexistant, et ça va passer par la Constitution. Et donc, cette Constitution, on l'a dit, elle a pour but, justement, dans l'esprit du régime, de légitimer un nouveau président, et puis aussi de légitimer, ce qui est très important, cette Algérie nouvelle dont le président a beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est l'Algérie nouvelle? C'est l'Algérie c'est l'Algérie Bouteflika, à laquelle aurait mis fin le Hirak béni, selon l'expression que le président Tebboune a beaucoup utilisée, et puis fin de la récréation, un nouveau président est élu, tout est réglé et nul n'est besoin de demander une démocratisation des institutions plus avancées, sauf que le Hirak ne l'a pas entendu de cette oreille, et cette solution de la constitution comme légitimation d'une nouvelle ère, eh bien elle est refusée.
Alors, que prévoit précisément ce projet de constitution, Ahmed Boubekeur? Alors, les juristes et les analystes évoquent plutôt un renforcement du pouvoir du président, une absence de séparation des pouvoirs, avec notamment un pouvoir judiciaire qui reste sous le contrôle de l'exécutif. Là, on voit qu'il y a effectivement une contradiction entre une intention affichée par le pouvoir et puis, dans les faits, un pouvoir qui resterait à peu près semblable à ce qu'il est aujourd'hui dans sa pratique. Peut-être un commentaire sur la façon dont ce projet a été élaboré. On sait qu'il y a eu un comité d'experts présidé par Ahmed Larabat. Alors, Amel Boubekeur, peut-être à la fois un commentaire sur la méthode et sur ce que contient ce projet de constitution.
Oui, alors sur la méthode, comme je disais, il faut bien garder en tête d'une part la volonté de légitimation par référendum populaire, mais en même temps ce référendum populaire, il est quand même à nuancer, parce que il faut savoir que l'avant-projet a déjà été adopté par l'Assemblée et par ce qui est le Sénat en Algérie. Et puis, encore une fois, la participation, même si elle risque d'être extrêmement faible, n'est pas l'enjeu final de la légitimation du régime. Sur la méthode, en fait, et sur le contenu, effectivement, il y a un renforcement important des pouvoirs du président. Il y a aussi, et c'est très important, une volonté de mettre en avant l'armée comme défense, comme institution qui défend véritablement les intérêts vitaux du pays, et de façon assez large, mais en même temps, c'est la première fois que c'est constitutionnalisé de cette façon. Il y a aussi, bien sûr, les habituels rappels sur à quel point l'État algérien doit être fidèle à la liberté de presse, d'association. Il y a une condamnation des violences faites aux femmes. Elle rappelle, cette constitution, l'importance de la mazirité comme constituante de l'identité nationale, ce qui a amené d'ailleurs, entre parenthèses, certains partis islamistes à boycotter cette constitution, cette question de la mazérité, donc du caractère berbère de l'identité nationale. Mais il y a aussi un renforcement du pouvoir présidentiel sur la justice et des alinéas qui condamnent, par exemple, tout discours qui attenterait aux valeurs de la nation. Donc là aussi, on sait que ce sont précisément ces motifs qui ont permis l'arrestation d'un nombre très important de détenus d'opinion. L'idée que, en manifestant, ces prisonniers d'opinion, donc qui ont été kidnappés et puis ensuite emprisonnés, portent atteinte aux valeurs nationales. Donc, en réalité, on voit qu'il y a d'abord un problème de processus. Ce processus de plébiscite de légitimation populiste est quand même en panne. Et puis aussi, il y a une importante délégation, en fait, de ce qui devrait être un exercice politique de renouvellement du contrat social, d'un nouveau projet national, d'un nouvel impulse à une nouvelle direction pour la société algérienne. Eh bien, tout ça est délégué à une instrumentalisation de la justice, c'est-à-dire qu'on ne va pas réguler la contestation par une négociation politique, mais par des procès dirigés. Et puis on ne va pas réguler non plus, parce que c'est très important, la chute des cours du pétrole et donc la nécessité de trouver une nouvelle rente et de renouveler le contrat social pour qu'il y ait un nouveau consensus entre le peuple algérien et ses dirigeants, eh bien, on va le reléguer à des annonces, par exemple. Alors là, on sort un peu du cadre de la Constitution, mais des annonces sur un ministère promu aux start-up, une invitation aux acteurs extérieurs, donc les partenaires internationaux de l'Algérie, à venir investir dans la production, dans le domaine de la production des hydrocarbures, pour pouvoir mieux faire tourner la machine et donc trouver aussi plus de revenus pour pouvoir les redistribuer à la société et acheter, selon l'expression consacrée, la paix sociale.
Donc on voit. Ahmed Boubacar, on entend donc en vous écoutant qu'il y a vraiment donc la volonté pour le pouvoir de d'asseoir enfin une continuité du côté du Irak, justement, du côté des militants, du côté des gens qui sortaient dans la rue et qui ne sortent plus, sauf exception. On parlera peut-être de la mobilisation du 5 octobre, une mobilisation forcément emblématique en raison de la date qui avait été choisie. Est-ce qu'il y a un débat sur la structure, la forme que doit prendre la contestation désormais et pour quels résultats politique? On comprend bien que pour le Irak, désormais, il ne se joue plus forcément quelque chose de l'ordre de la réforme institutionnelle, de la volonté d'en finir complètement avec un régime, du moins peut-être dans un premier temps. Mais alors, dans quelle perspective se projettent ces militants du Irak et par quel canal ça passe? Est-ce qu'il y a déjà un dialogue entre eux?
Alors la période en fait de pause concertée et acceptée collectivement par les acteurs du Hirak pendant le Covid-19 a permis plusieurs choses. D'abord, elle a permis d'entériner la question de la négociation. Il n'est plus question de donner du crédit à la possibilité de négocier une transition pacté avec les autorités. Et là, il y a des appels à organiser une transition autonome avec l'organisation de conseils locaux. C'est quelque chose qui a mûri hein, depuis un an et demi et qui maintenant est véritablement acté. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas attendre justement de ces processus internes de légitimation à travers la Constitution l'émergence d'une nouvelle alternative. Et au contraire, le fait même au niveau intra-Hirak, si je peux le dire comme ça, l'idée que prendre en compte une multitude et une multiplicité d'avis, y compris contradictoires, donc le dissensus politique est véritablement une façon de construire la nation. Donc c'est une initiative et une façon de considérer Hirak qui s'inscrit dans le long terme. Mais ce qui s'est passé en fait pendant ces mois de pause depuis mars 2020, c'est que les questions, les débats sur la Constitution, d'abord il y a eu des initiatives de certains collectifs au niveau local d'organiser et de drafter leur propre Constitution. Ça a été complètement ignoré par le régime dans cette nouvelle Constitution qu'il propose. Et donc il y a eu aussi une explosion des débats sur Internet. Il y a beaucoup plus, parce que forcément la répression ayant déplacé le champ du débat de la rue sur les réseaux sociaux de manière virtuelle, il y a une explosion des consultations, il y a une explosion des débats. Donc ça, si vous voulez, cette manière parallèle qu'ont le Hirak et le régime de mener leur propre transition et d'y réfléchir de manière plus autonome les uns des autres, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui en Algérie et qui va avoir un impact fondamental sur justement la continuité de cette opposition entre régime et Hirak.
Et donc on comprend en vous écoutant, Ahmed Boubacar, que donc des changements sont attendre, pas forcément de façon institutionnelle ou constitutionnelle dès dimanche prochain, mais en tout cas ces prochains mois et ces prochaines années. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue et chercheuse associée au Conseil européen des relations internationales.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tu me fais le speech?
Le pitch.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous demain à 18h. Avec Garçon Chiffon de Nicolas Maury, sélection officielle Festival de Cannes 2020. Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière et met en danger son couple avec ses crises de jalousie à répétition. Il décide alors de quitter Paris pour se ressourcer dans le Limousin. Projection en avant-première, suivie d'un débat animé par Antoine Guillot avec le réalisateur Nicolas Maury. Infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr. En partenariat avec Mubi.
Vous écoutez France Culture, il est 6h58, l'heure de vous retrouver. Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Antoine Dulster.
Alors dans votre billet d'humeur aujourd'hui, Emmanuel Macron est-il sain d'esprit?
Eh ben, c'est la question qui se pose après la déclaration du président turc Erdogan, lequel a publiquement douté de la santé mentale de notre président, d'où la question... Erdogan est-il fou de traiter Macron de dingue? Alors la plupart de vos journaux répondent ce matin par la négative, voyant là un coup politique du président turc, lequel a maintenant sa tête de turc, comme le dit Libération. Toutefois, la situation pourrait devenir préoccupante pour Erdogan si d'aventure il souhaitait se lancer dans des études de sociologie. C'est une simple hypothèse, hein, Antoine, s'il avait envie de passer, je ne sais pas moi, un M1 par exemple, tout simplement parce qu'il est absolument interdit, et vous le savez en sociologie, d'expliquer un raisonnement que l'on juge erroné, à supposer qu'il le soit. Il est absolument erroné d'attribuer un raisonnement erroné aux déficiences cognitives des personnes. En sociologie, ce qui importe, au contraire, c'est de reconstruire la logique des acteurs en postulant qu'ils ont des raisons d'agir comme ils agissent, que les acteurs agissent par conviction, calcul ou par devoir. C'est pourquoi la sociologie étant de manière radicale le champ de la normalité psychologique, à peu près n'importe quelle action peut être qualifiée de logique dès lors que la personne est capable de donner une logique à son acte, appelé au boycott du caprice des dieux, non en raison du caractère, comment dire, édulcoré de ce fromage à pâte molle, mais parce qu'il est associé au polythéisme, c'est un exemple, hein. Les sociologues sont des gens tolérants, ce qui n'est pas le cas des psychanalystes. J'en sais quelque chose, ma belle-mère est psychanalyste, puisque pour Freud, au contraire, la santé mentale consiste à, je cite, « produire et à se reproduire ». D'où une opposition très nette, disons, entre Max Weber, pionnier de la sociologie, et Sigmund Freud, fondateur de tout salon, enfin promoteur du divan. Weber contre Freud, ça vaut bien Macron contre Erdogan, deux visions de la santé mentale. D'autant qu'en ce moment, l'actualité ne donne absolument pas envie de produire, ni même de se reproduire, mais plutôt de se recoucher. Je dis ça alors même que nos amis auditeurs sont probablement couchés, que je suis censé leur donner envie de se lever. Mais voilà, je suis comme tout le monde, je n'ai absolument aucune envie de produire en ce moment. Et c'est pourquoi je ne vais même pas faire semblant de trouver une chute à ce billet d'humeur.